Vous écoutez Dans la tête d'un leader,
le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs.
Dans une semaine, vous découvrirez un tout nouvel épisode.
Pour vous faire patienter jusque-là, on vous propose d'en écouter un extrait.
Bonne écoute
et à la semaine prochaine.
Ma devise, c'est on attire ce en quoi on croit. C'est vraiment ce qui m'a guidée sur tout mon parcours, de dire qu'effectivement, voilà, quand on a de fortes convictions, quand on sent qu'on est aligné avec tout cela, alors il faut y croire jusqu'au bout et laisser personne finalement vous influencer d'un sens ou d'un autre. Donc véritablement, moi, c'est le mantra qui me guide depuis toujours.
Merci pour ce partage. Ce podcast commence très bien avec cette inspiration-là. Vous le savez, nous allons évoquer toutes vos méthodes de management. Vous allez nous partager vos astuces, si on peut le dire comme ça, sur votre manière de gérer vos équipes, votre entreprise. Et on va aborder ça par thématique. Et donc, la première thématique, qui est une thématique qui nous tient à cœur et qui est au cœur du métier même de dirigeant, c'est la prise de décision. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous prenez vos décisions, plutôt les décisions stratégiques ? Est-ce que vous avez mis en place une méthode avec l'expérience ?
Oui, alors, ce qui est important systématiquement, c'est en fait, j'analyse déjà systématiquement quel est le contexte, quels sont aussi les atouts de l'entreprise. Donc, vous voyez, moi, quand je suis arrivée, en fait, il y a 3 ans à tête de Picard, on était en pleine crise sanitaire, donc forcément des décisions, il fallait en prendre. Et donc, ça a été de me dire de quoi est fait le contexte, qu'est-ce que ça nous dit sur la vie des gens, sur la préoccupation des gens. Et en même temps, cette entreprise qui a presque 50 ans d'existence, elle est résiliente, elle a des forces, mais en même temps, qu'est-ce qui lui manque? Et comment finalement elle peut entrer en résonance avec ces nouvelles préoccupations qui apparaissent? Donc, il y a d'abord une vraie phase d'analyse qui fait que finalement, ensuite, on en tire des opportunités et peut-être des convictions. Mais ce que m'a appris aussi le contexte aujourd'hui, c'est que des convictions, il en faut. Ça donne toujours l'impulsion à un premier dossier, mais qu'on ne peut plus avoir de certitude. Puisque je pense que, en tout cas, ces 3 dernières années, moi, le contexte nous a terriblement challengé pour se dire c'est compliqué, effectivement, d'être dans le juste et de prévoir l'avenir demain. Donc, une deuxième méthode après cet autodiagnostic, c'est de se dire comment finalement on est sur une méthode de test and learn. C'est-à-dire, on n'est pas convaincu, on a une conviction, on ne sait pas si ça va fonctionner, alors on teste sur une granularité telle que ça ne met pas en danger l'entreprise, avec des indicateurs de mesure qui vont nous permettre finalement de dire effectivement, il y a une vraie appétence sur ce marché par rapport à ce qu'on propose ou pas. Et avoir l'humilité finalement de se dire, eh bien, ça ne marche pas, pas de problème, on range l'idée, mais en tout cas, on n'en sait plus qu'hier. Donc, je pense qu'il y a, voilà, analyse, je dirais, test, en tirer les enseignements et surtout la qualité qui accompagne tout ça, c'est l'humilité.
C'est extrêmement important ce que vous nous partagez là, et notamment cette notion d'humilité, parce qu'on sait que dans la prise de décision, un des biais qui est terrible pour le dirigeant, c'est celui parce qu'il a pris une décision, de vouloir s'y tenir coûte que coûte et d'avoir une forme d'entêtement peut-être. Est-ce que comment vous luttez, vous, contre ce biais-là?
Vous avez raison, mais c'est pour ça que je pense. Vous savez, moi, je suis issue du carrelage, j'ai été chef de rayon et j'ai grandi au mérite et au travail. Donc, l'humilité a toujours fait partie, finalement, des valeurs que je cultive. Et je pense que, en tout cas, dans les actions qu'on entreprend en tant que dirigeant, il n'y a pas de place pour l'ego. Il n'y a pas de place pour l'ego, il y a au contraire de la place pour l'opportunité de créer ensemble, d'entreprendre, et donc là aussi de renoncer si ça ne fonctionne pas. Et je pense que quand je renonce, ce n'est pas un acte de faiblesse, mais c'est en revanche effectivement un acte intelligent qui fait que j'emmène ni l'entreprise ni les collaborateurs sur des décisions qui seraient pour le coup négatives pour tout à chacun. Donc en fait... Une fois qu'on a compris finalement qu'on ne joue pas sa personne et son ego dans toute décision, mais qu'à l'inverse, on a cette humilité de savoir s'entourer. Vous voyez, moi aussi, quand j'ai constitué mon comité de direction, je me suis entourée de gens que j'estime être meilleurs que moi sur leur champ d'expertise. Alors moi, je suis le chef d'orchestre, mais effectivement, j'ai des experts autour de moi et le lien de confiance, en tout cas, que j'essaie d'établir, fait qu'ils se permettent aussi de ne pas être d'accord, d'avoir une autre conviction. Et c'est toute cette richesse-là qui fait que finalement, on apprend des uns des autres, on est en capacité de recevoir et donc de construire. Et tout ça, ça cultive l'humilité, en tout cas, dont on a besoin pour avancer.
C'est évident. Et vous évoquez la prise de décision collective, hein, puisque j'imagine au sein de votre CODIR COMEX, vous avez un fonctionnement sur lequel j'imagine, pour comprendre un peu votre mode de fonctionnement, que vous n'êtes pas despotique et que vous faites la part belle aussi aux échanges. Comment est-ce que vous prenez une décision, vous faites en sorte que la mayonnaise prenne pour prendre des décisions collectives?
Bien, je vais vous citer un exemple, parce que peut-être ce sera le plus parlant. Vous voyez, quand on a décidé, en tout cas, qu'il y avait certainement une opportunité pour lancer la livraison express. On l'a lancée via Deliveroo. Je me souviens qu'en l'immédiateté, les jeunes qui veulent à bout de pouce obtenir des choses très vite, fait partie de nos tendances de consommation et nos tendances de société. Donc, il m'est apparu évident de dire « il faut qu'on lance la livraison express en moins de 10 minutes ». Ben, quand j'ai porté cette idée en fait au comité de direction, 90% étaient contre, 10% étaient OK. Donc je me suis dit, trois pistes s'offrent à moi. Soit effectivement, j'impose l'idée, après tout je suis le patron, mais à mon avis effectivement, qui m'aurait suivi longtemps, je pense personne. Soit effectivement je me suis dit, ah mais la majorité veut pas, alors je renonce. Et là, pour transformer une entreprise, bah, systématiquement, j'aurais eu du mal. Hein, un petit peu ce qu'on voit, à l'instar de ce qu'on voit dans notre société, hein, avec les retraites ou autres. Donc, la troisième voie, ça a été de me dire, j'entends que vous n'êtes pas d'accord, vous avez des convictions autres. Moi, j'ai la conviction que ça va fonctionner. Alors, peut-on définir ensemble des indicateurs de mesure qui vont nous permettre, finalement, après avoir testé, de se dire bah, c'est un projet qu'on ne doit absolument pas déployer pour l'entreprise ou à l'inverse, on doit y aller. Et je leur ai dit, je vous laisse choisir les indicateurs de mesure. Donc, il y en a 5 qui sont apparus. Ça a été, effectivement, ma directrice qualité a dit, est-ce que moi, je vais faire des audits inopinés pour voir si le produit est toujours à moins 18 degrés à cœur parce qu'il ne s'agit pas qu'il y ait un problème sur la chaîne du froid. Une autre m'a dit les réclamations clients. Un autre m'a dit le NPS, c'est-à-dire la satisfaction des clients, comment ils vont noter l'application Deliveroo quand ils sont livrés par Picard. Un autre m'a dit de l'appétence, est-ce que effectivement ça va recruter des nouveaux clients ou pas, ou ça va cannibaliser finalement nos magasins. Et puis effectivement, mon directeur financier de dire, et puis est-ce que ça crée de la valeur finalement, est-ce que c'est rentable. Donc on est parti sur ces 5 critères-là, chacun ayant en responsabilité un critère. On a mis Deliveroo sur 17 magasins parisiens. Donc, vous voyez, on est 1100 magasins aujourd'hui. 17 magasins, ça ne met pas en péril une société. Pour aller tester tout cela, eh bien, 6 mois après, on a commencé en janvier 2021, juin 2021, est arrivé le D-Day où, effectivement, on a partagé les indicateurs de mesure. Directrice qualité de dire, on a fait beaucoup d'audits inopinés, zéro souci, zéro réclamation client, un NPS de 4,8 sur 5. 64% des gens qui utilisent Deliveroo sont des nouveaux clients pour la marque, n'avaient jamais consommé Picard, et une rentabilité avérée. Donc, une fois qu'on a eu partagé, je me dis bon. Et là, ils m'ont dit, alors on déploie quand? Donc, vous voyez, c'est… La preuve par l'exemple. C'est effectivement ça, c'est ça ma théorie du test and learn, c'est se dire… On peut avoir des convictions. Ils avaient la conviction que les surgelés livrés en 10 minutes, c'était juste pas une attente consommateur. J'avais la conviction inverse. Et donc, c'était de se dire à un moment, on ne sait pas qui, mais on est prêt à jouer le jeu de tester. Et moi, j'étais prête à retirer l'idée, le projet. À l'inverse, ils étaient prêts à le faire. Le tout, c'est que je pense que c'est l'usage client qui parle dans ces cas-là et la résonance que ça a avec le client final qui est importante et non pas tant finalement, ce qui nous anime, nous, en tant que professionnels.
Oui, et qui a raison ou qui a tort, c'est vraiment pas la question
non,
là, dans cet exemple.
Non, c'est des débats qui n'en finissent plus et chacun a effectivement un argument qui va bien. Et je pense qu'à un moment, il faut mettre la balle du côté du client et puis voir comment tout ça réagit.
Vous venez d'écouter un extrait de notre prochain épisode.
Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'intégralité de cet entretien.
Pensez à vous abonner pour ne pas le manquer.
À très bientôt.